BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
L'esprit, c'est comme les parapluies, c'est plus utile ouvert. Alors, on essaie de garder l'esprit ouvert, effectivement, ouvert au marché, en tout cas, jusqu'à 18h. Bienvenue à tous. En fil rouge, il est là, Antoine Larigauderi. Rebonjour, Antoine.
Rebonjour, Guillaume.
Votre mot du jour.
Granularité, avec donc cette high-tech qui vraiment est en train de mettre des ponts entre, par exemple, un secteur des logiciels qui performe très, très bien à la bourse aujourd'hui. Capgemini, plus 5,7%, plus 5,5% pour Dassault Systèmes, et des semi-conducteurs qui subissent le contre-coup des performances et des perspectives de Broadcom, jugée décevante par les marchés. Le titre est en baisse de plus de 15% du côté de Wall Street, entraînant dans son repli STMicro qui perd 3,2% et Soitec moins 7,6%. Le CAC, au milieu de tout ça, reste quand même sérieusement bien orienté, plus 0,8%.
Les semi-conducteurs donc sanctionnés après des semaines explosives à la hausse, c'est Broadcom le déclencheur, vous le disiez Antoine, effectivement, puis à l'inverse, les logiciels en pleine forme. On essaiera de trier, de sélectionner les meilleurs potentiels sur le marché. On parlera de SpaceX qui doit s'introduire dans une grosse semaine, a priori. Le marché commence à préparer l'IPO de SpaceX. Est-ce que cette IPO entraînera des ventes sur certaines valeurs? Est-ce que certains opérateurs, pour financer une participation à l'IPO, pourraient vendre et prendre leur plus-value sur d'autres valeurs? Est-ce que la chute du Bitcoin aussi est en partie liée à l'IPO à venir de SpaceX? Est-ce que certains prennent leurs bénéfices sur le Bitcoin pour les réinvestir dans SpaceX? C'est le genre de questions qu'on aime bien se poser et qu'on posera dans un instant. Et puis on regarde aussi les publications, les annonces d'entreprise Rémy Cointreau. Les prévisions qui sont saluées. Ce titre gagne 11% aujourd'hui. Oui, et c'est pas du tout grâce à l'IA. Il n'y a toujours pas d'IA dans vos bouteilles de cognac. Non, c'est pour beaucoup d'autres raisons que l'IA, que le groupe, que Rémy Cointreau publie des prévisions plus optimistes. Un plan de relance notamment relativement ambitieux dont on découvrira et on détaillera les tenants et aboutissants tout à l'heure. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business. Alors à l'affût de toutes les actus du jour, il y en a beaucoup. D'abord, sachez que le prix moyen des voitures neuves a reculé en France l'an dernier. Il a reculé, ce prix moyen des voitures neuves, de 2%. Et c'est une première après une hausse sans précédent de plus de 30% quand même depuis 2019. Les récentes baisses de prix s'expliquent par le recul des ventes de voitures hybrides rechargeables particulièrement chères et désormais soumises à la taxe dite malus au poids. Face à la crise du BTP, Legrand, lui, se réorganise. C'est aussi l'actu du jour. Legrand va supprimer 178 postes en France d'ici à 2028. Le fabricant de matériel électrique va fermer 4 sites. Parallèlement, il compte investir malgré tout plus de 80 millions d'euros en France, notamment dans les technologies clés. Et puis 1,9 million d'euros, c'est le montant d'amende requise devant la commission des sanctions du gendarme boursier contre la plateforme financière Bourse Direct et sa présidente. En cause, des manquements présumés à des obligations de déclaration et de surveillance des transactions. Bourse Direct prend acte de cette requise et répond dans un communiqué qu'aucun préjudice client, aucune atteinte aux avoirs des investisseurs ni aucun manquement à ses obligations de loyauté vis-à-vis de sa clientèle n'ont été identifiés dans la procédure. Réponse donc de Bourse Direct et plus de détails d'analyse tout à l'heure dans le 18-19. Edwige Chevrillon, d'ici là, on est avec vous, on joue dans votre camp, c'est BFM Bourse.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils nous rejoignent, c'est sa première dans l'émission, on est ravis de l'accueillir, Laurent Martin pour CIBTP France. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Guillaume.
Content de vous retrouver avec Régis Béguet, un habitué depuis
2010 je crois.
Bienvenue Régis.
Voilà. Et la couleur des cheveux a changé.
Non, pas du tout.
Période.
Regardez justement, non. Et ils sont toujours aussi nombreux, les cheveux. Zaldig Asset Management, bienvenue également. On est pas mal là sur les marchés européens, des marchés, des indices bien orientés. L'Eurostock 50 gagne 0,5%. Le CAC fait mieux que tout le monde, alors ça. Ici, c'est Paris, hein. Ici, c'est Paris. Plus 0,8. C'est à Paris qu'on trouve la plus forte hausse en Europe aujourd'hui. Ça change, c'est rarement le cas. Et à Wall Street, on est en hausse aussi. On avait ouvert dans le rouge et finalement, c'est une hausse du S&P de 0,1%. Qui va arrêter les marchés? Enfin, on avait ouvert sur une petite correction à Wall Street tout à l'heure et finalement, on est déjà en train de se retourner à la hausse. Malgré Broadcom qui perd 15%. Qui arrêtera les marchés?
Oui, c'est impressionnant la capacité des marchés à toujours en hausse, quelle que soit la thématique. C'est vrai que il y a eu la première partie de l'année, janvier en particulier, qui était plutôt portée par les business domestiques, la défense, etc. Depuis, la défense a énormément baissé. Ensuite, il y a eu effectivement toute la dynamique autour de l'IA, donc en commençant par les semi-conducteurs, mais pas seulement, puisque ça s'est étendu aux valeurs liées à l'électricité, donc les utilities, aux valeurs liées aux matières premières dont on a besoin pour faire de l'électricité, donc les miniers, etc. Et bon, on est toujours sur cette tendance-là depuis le début de l'année. Mais dès que cette tendance s'interrompt pour X raisons, aujourd'hui c'est Broadcom, peut-être c'est l'IPO de SpaceX, le marché a une capacité à continuer à monter sur d'autres valeurs qui étaient délaissées jusqu'ici. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, même si c'est tout à fait justifié sur le fond. C'est-à-dire que l'attractivité de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'il y a eu autour a provoqué des baisses de valorisation qui sont très souvent excessives dans les business défensifs, dans la pharma, dans les logiciels, vous l'avez cité, qui sont considérés à tort ou à raison comme des IA losers. Il y avait eu déjà un réveil il y a deux jours à la suite du CEO d'NVIDIA qui avait dit que c'était une période merveilleuse pour être un éditeur de logiciels et que l'IA n'allait faire que renforcer l'utilisation des logiciels. Mais pour l'instant, le marché n'a pas pris cette hypothèse-là. Mais dès qu'effectivement il y a une petite pause semi-conducteur, IA, etc., eh bien, on retrouve ces valeurs-là. C'est-à-dire et le marché net, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il pourrait y avoir cet arbitrage et puis que net, ce soit à peu près neutre. Mais net, ça fait du positif.
Oui, et en fait, ce que vous dites, c'est que des variations à la hausse qui peuvent sembler aujourd'hui excessives, on a vu Dell gagner plus de 40% en deux jours, Hewlett-Packard, les serveurs Hewlett-Packard d'un coup gagner 20%, hier, Valeo, plus 18%, ces hausses qui peuvent paraître excessives, en fait, non, elles ne sont pas forcément excessives, elles corrigent des excès à la baisse.
Absolument, on a eu un écart, notamment sur la partie logiciel semi-conducteur, qui sont, depuis 30 ans, des secteurs qui sont extrêmement corrélés, depuis toujours, parce que globalement, plus il y a de logiciels et plus on a besoin de semi-conducteurs, et puis quand il y a des retournements de tendance, etc., on a moins besoin de logiciels, on a moins besoin de semi-conducteurs. Ces secteurs sont très très corrélés. Depuis juillet 2025, très précisément, il y a eu un écartement de performance entre ces deux secteurs qui est absolument vertigineux et jamais vu dans l'histoire, à telle enseigne que, effectivement, dans un certain nombre de cas, on est tombé sur des niveaux de valorisation qui sont très très bas, qui ne peuvent se justifier que si on fait l'hypothèse qui est à vérifier, qui n'est pas forcément fausse, mais qui sera à vérifier sur plusieurs années, que effectivement l'IA conduira à la moindre utilisation des logiciels ou les remplacera dans un certain nombre de cas.
Il y avait beaucoup de positions short sur des secteurs entiers, les logiciels, certains acteurs automobiles, et ces positions d'un coup, juste à cause de l'IA, parce qu'on se dit non, attention, il y aura quand même un usage de l'IA pour ces secteurs, d'un coup ces positions short parfois massives se débouclent, ouais. Exactement, et ça donne des hausses incroyables qu'on observe.
Et puis je termine là-dessus, vous avez aussi beaucoup d'autres secteurs qui ont été délaissés, non pas par raisonnement parce qu'ils étaient des victimes de l'IA, mais simplement par les flux, parce qu'il a fallu vendre ces titres pour pouvoir acheter toutes les valorisations stratosphériques que l'on a vues. Et effectivement, ça a pesé sur la valorisation de beaucoup de valeurs défensives, de la consommation cyclique, de la consommation non cyclique, de la pharma, etc.
Alors là, Régis, vous êtes en train de justifier les hausses qu'on a observées explosives des derniers jours. Vous êtes en train de les justifier. Est-ce que Régis vous a convaincu, Laurent?
Je ne sais pas si c'était le projet.
Ça va vous permettre une belle entrée en matière.
Oui. Je poserai la question autrement. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans une bulle de l'IA, une bulle de tout ce qui touche de l'IA? Effectivement, on a du mal à comprendre qu'une société puisse gagner comme Dell 40% en deux jours. C'est-à-dire que les analystes ont été aveugles par rapport à un certain nombre d'éléments sur certaines boîtes. Je pense à le nom m'échappe qui a été multiplié par 14...
Intel,
c'est non, le
Bitcoin,
Sandisk.
Ah oui, Sandisk, oui.
Donc des progressions stratosphériques. Il y a certainement des éléments très factuels, c'est-à-dire qu'ils sont sur des marchés qui sont en train d'exploser. Mais moi, ça m'étonne toujours qu'effectivement les analystes n'aient rien vu avant. C'est-à-dire que pour qu'une boîte gagne 14 fois, soit multipliée par 14 en à peu près un mois, c'est qu'il y a eu vraiment une disruption.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant la crise des dettes, Lehman, il y a eu la grande remise en question des agences de notation. Vous dites là, il y a des questions qu'on devrait se poser sur la capacité des analystes à anticiper ces business-là.
Ils sont dans les choux. Oui, je m'en pose. C'est quand même extrêmement étonnant de voir des valorisations multipliées par autant en si peu de temps. Même Nvidia, d'ailleurs.
Nvidia. Mais c'est pas, si je peux me permettre, c'est pas les analystes qui font les cours de bourse. Hein. Les cours de bourse sont faits par la somme des acheteurs et des vendeurs.
Absolument.
Oui, mais les attentes du marché.
Les objectifs de cours.
Les intervenants du marché, c'est pas forcément les analystes.
Oui, mais le consensus se plante, quoi. Ouais. Les anticipations de business sont complètement dans les choux, quoi. Et donc, que font les analystes? C'est là qu'on peut se poser la question. De même qu'on se demandait que font les agences de notation il y a une quinzaine d'années.
Ah, c'est un petit peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA, de tout ce qui touche à l'IA? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ça, on le saura dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que même si on sait que c'est une bulle, même si on vous dit aujourd'hui, oui, il y a une bulle de l'IA, vous ne pouvez pas jouer contre la bulle. C'est trop difficile, parce que le marché pourra rester irrationnel plus longtemps que vous ne serez solvable. Donc, il y a aussi ce réflexe, je pense, dans le marché en général, et c'est ce que vous aviez dit, c'est que dès qu'il y a un secteur qui baisse un petit peu, les acteurs de marché en général ne veulent pas sortir du marché action parce qu'ils se disent « demain, il y aura peut-être d'autres gagnants de l'IA, je ne veux pas rater ça ». Donc je vais prendre un petit peu de profit sur Nvidia. Nvidia est devenue pas chère d'ailleurs. Oui. Nvidia sous-performe plutôt le reste du marché de la tech pour se repositionner, mais ne veulent pas sortir du marché pour ne pas rater un éventuel rallye sur un certain nombre de titres. Je pense qu'il y a aussi des flux qui sortent d'une classe d'actifs qui est très souvent oubliée, mais qui est très grosse, vers les actions, ces obligations souveraines.
Ah. Ça vient nourrir le flux action, là. Ce qui se passe sur le marché.
Je pense que ça nourrit un petit peu le flux action. On voit que les taux longs en Europe, les taux longs aux États-Unis, les taux longs au Japon, sont quand même relativement élevés par rapport à ce qu'on avait connu les 10 dernières années. Il y a certainement quelques dégagements de ces obligations souveraines, et ça représente quand même des sommes très importantes pour aller vers des actifs comme les actions et comme la tech.
On en viendrait presque à souhaiter encore plus de tensions obligataires dans ce cas, c'est parfait, ça nourrit la hausse des actions.
Ça marche jusqu'à un certain sens, jusqu'à un certain point. Je crois que Yardeni hier l'avait dit, et il y a quelques analyses de Yardeni qui avait déjà fait quelques analyses là-dessus. Le point de bascule où le marché action commence à s'inquiéter des taux, c'est quand le 10 ans américain est 4 3/4 et au-dessus. Donc là, on est à 4,50. Donc pour l'instant, ça ne l'inquiète pas. Mais effectivement, ça peut être un élément où il y a une réallocation vers ça, parce que on sent bien que demain l'IA sera partout. On ne sait pas est-ce que ce sera profitable, on ne sait pas si c'est très déflationniste, s'il y aura des retours investissement très importants.
Mais c'est là que ça se passe.
C'est là que ça se passe. On n'a pas envie de sortir de ça.
Au point qu'Alphabet, qui avait annoncé une levée de fonds en début de semaine de 80 milliards de dollars en actions, finalement annonce, la demande est tellement forte qu'on fait 85 milliards, allons-y. La demande est très forte sur Alphabet, alors qu'il va y avoir des appels à capitaux gigantesques du fait des IPO à venir, des introductions en bourse, SpaceX, Anthropic. Compte tenu de ce que nous dit à l'instant Laurent, on se dit que la poudre au sec, l'argent, le cash ou les réallocations prêtes à se réinvestir encore en actions sont infinies. Le monétaire aussi, sans doute, peut profiter du mouvement. Si à un moment les banques centrales finissent par baisser les taux, ça va attirer encore de l'argent à terme, peut-être à partir de 2027, pas avant, sur le marché actions.
Il y a quand même un effet richesse, qui est que la hausse des cours de bourse enrichit les portefeuilles et leur donne de la capacité à si vous avez un titre qui prend 1000% dans l'année, au bout d'un an, vous pouvez vendre 1% de votre position pour acheter un autre titre qui lui-même donc va créer de la capitalisation, non seulement sur le titre qui lui-même a monté, mais sur les titres à côté. Alors encore une fois, ça marche pas non plus systématiquement, puisqu'on l'a dit, il y a à peu près la moitié, une grosse moitié du marché qui jusqu'à présent a pâti de cet effet, l'apathie non seulement en performance relative, c'est-à-dire que ça sous-performe la hausse du marché, mais même en performance absolue. Oui. Vous avez beaucoup de secteurs et de valeurs qui sont en baisse absolue depuis deux ans, alors même que leurs bénéfices, qui n'ont pas fait de profit warning, qui n'ont pas eu de révision en baisse de leurs bénéfices, et leurs bénéfices ont continué de croître, donc les multiples de valorisation, donc par exemple dans l'agroalimentaire, les multiples de valorisation se sont absolument effondrés. Donc vous avez eu des bénéfices qui ont continué de croître et des cours qui ont continué de baisser. Donc ça ne marche pas non plus systématiquement, mais ça marche assez bien au sein d'une même thématique. C'est-à-dire qu'au sein d'une même thématique, vous avez un effet d'entraînement qui est que tout le monde se compare à tout le monde et que plus les valorisations montent, plus les valorisations montent. Et effectivement, c'est ainsi qu'on rentre dans la bulle et on peut commencer à se dire qu'on est dans la bulle à partir du moment où on va chercher des valeurs qui sont pas très directement liées au sujet, mais qu'on assimile quand même. Et vous citiez Valeo, c'est un petit peu le cas. Valeo a parlé data center et immédiatement vous avez une hausse de la valorisation qui est relativement démentielle, bon, à la hauteur de
la chute d'avant. Ouais.
Non, mais à part de très bas, dans des proportions qui restent quand même pas complètement déraisonnable, mais voilà, on commence à avoir un peu fait le tour de ce qu'on connaît, de ce qui existe, des semi-conducteurs, etc. On va chercher des valeurs qui n'ont pas trop de rapport avec le sujet, mais qu'on assimile parce que on se dit voilà, c'est la nouvelle idée du moment.
Oui, alors on va parler aussi d'obligations, bien sûr, de banque centrale dans un instant. Je sais, Laurent, que c'est des thèmes que vous appréciez particulièrement, mais juste avant de clore ce chapitre consacré à l'IA, à la tech, est-ce qu'on se dit avec tout ce qui se passe sur la tech et notamment américaine que la Chine est en train d'être larguée, là, qu'elle est doublée, enfin, plus que doublée. On se disait, Chine, États-Unis, c'est à peu près égalité, surtout au moment de DeepSeek. On se demandait même si la Chine n'était pas en train de passer devant. Et puis là, on voit les montagnes d'investissement annoncées, et puis la hausse faramineuse des valeurs américaines. À côté, DeepSeek nous annonce une levée de fonds de... Attendez, je cherche le chiffre, il est tout petit. 7 milliards de dollars. 7 milliards, c'est rien comparé à ce qu'annoncent les groupes américains. Est-ce que les Chinois manquent d'argent, là, Antoine?
Mais c'est encore une fois le truc. C'est qui c'est qui a la plus grosse valorisation? Qui c'est qui va lever le plus de fonds? DeepSeek, ils ont émergé en t'expliquant qu'ils sont capables de faire la même chose pour 100 fois moins cher. Logique qu'ils lèvent que 7 milliards. Et s'ils arrivent à faire exactement la même chose...
Ouais, est-ce qu'ils peuvent arriver à faire exactement la même chose, à faire des IA aussi poussées? Il faut de l'inférence aujourd'hui, ce qui demande beaucoup de data, beaucoup d'énergie et de l'argent.
DeepSeek a montré en soi-même qu'ils étaient capables de faire exactement la même chose à un moment donné.
Il y a deux ans, voilà. Voilà.
Mais qu'ils arrivaient à disrupter justement en demandant beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de calcul. Est-ce qu'ils préparent la deuxième phase?
DeepSeek annonce une levée de fonds de 7 milliards de dollars. On a presque de la peine pour eux, là,
non.
Laurent.
Non, moi, j'ai pas du tout pour la. C'est un continent que et des gens que je personnellement connais un petit peu. La communication des Chinois, alors j'ai dire des Chinois en général, est inversement proportionnelle à leur efficacité. Ce qui est peut-être parfois le contraire de Donald Trump. Je rappelle qu'aujourd'hui, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, c'est BYD.
Oui.
Qui parlait de BYD à 5 ans? Est-ce que BYD, il y a 5 ans, a fait de la communication sur les 100 000 ingénieurs qu'ils ont pour construire des voitures électriques efficaces? On avait vu sur X en particulier, c'était pas sur X, c'était je sais plus où. Bref, Elon Musk il y a 5 ans qui se moquait de BYD, qui disait jamais BYD ne concurrencera Tesla. On en est là où aujourd'hui. Donc les Chinois, je pense qu'il faut pas juger de leur efficacité, de leur capacité à leur communication.
D'accord.
Je pense qu'ils travaillent beaucoup plus qu'ils ne parlent.
Oui.
Et parfois c'est plutôt bon signe.
Régis.
Oui, il est certain, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il est certain qu'un excès de flux monétaire, d'argent, de valorisation, de confort, nuit à la productivité. On l'avait vu autrefois dans d'autres secteurs, je pense au secteur du pétrole. Quand le pétrole est resté très longtemps, de 2003 à 2015, au-dessus de $100 ou autour de $100, pendant une décennie, les coûts d'extraction du pétrole ont monté avec le pétrole. C'est-à-dire tous les services sont devenus plus chers, et puis on s'est mis à dépenser plus, et puis on s'est mis à voyager en business, et puis etc. Et puis quand le cours du pétrole est passé de $100 à $20, on s'est aperçu qu'on pouvait extraire du pétrole non plus à $70, mais à $25.
Oui.
Et je pense qu'il y a un peu de ça aujourd'hui dans la tech, c'est-à-dire qu'il y a quand même tellement d'argent que très probablement il y a une sous-productivité qui est en train de se mettre en place, et des dépenses somptueuses statuaires qui sont probablement inutiles, ouais, on le voit dans l'énergie.
Est-ce que le marché qui se demandait jusqu'à il y a peu si la Chine allait concurrencer, voire gagner le match face aux États-Unis dans l'IA, est-ce que le marché est en train de répondre non, c'est les États-Unis qui gagnent? Est-ce qu'il y a de ça aussi dans les valorisations? On regarde par exemple les points faibles des uns et des autres. La Chine a beaucoup d'électricité, mais assez peu de puces avancées. Les États-Unis, c'est l'inverse. Peu d'électricité, mais beaucoup de puces avancées. Et qu'est-ce qui est le plus important là pour l'avenir de l'IA? Avoir beaucoup d'électricité ou avoir les meilleures puces qui nécessitent ces meilleures puces, un peu plus d'argent?
Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que la Chine a ou n'a pas?
À ce point?
Oui.
Quand on les connaît, on sait qu'on les connaît pas.
Regardez depuis le début de la crise du 27 février, la Chine importe 5 à 6 millions de barils de moins chaque jour qu'avant le début de la crise. Et quand on regarde les stocks, alors c'est toujours pareil, on ne connaît pas exactement le niveau des stocks, ça ne s'explique pas par du déstockage. Ça veut dire qu'ils ont switché sur, pour leur production énergétique, alors du charbon malheureusement, mais aussi de l'hydraulique, aussi du solaire, aussi du voltaïque, qu'ils avaient en réserve.
Oui.
Les Chinois ont une stratégie.
Oui.
Ils ont une stratégie d'État. C'est-à-dire que là, moi, c'est une des grandes différences que je perçois, c'est qu'aux États-Unis, c'est des stratégies concurrentielles. Alors, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. C'est une stratégie concurrentielle entre les gros, les hyperscalers. En Chine, c'est plutôt une stratégie poussée par l'État, organisée par l'État, pour devenir la première puissance mondiale. Et donc oui, non, on sait.
C'est pas parce qu'on les voit pas venir qu'ils ne viennent pas.
Absolument. Voilà. C'est exactement ce que je pense.
Sur le pétrole, par exemple, vous disiez, au début du conflit, on se disait, ils vont avoir de grandes difficultés parce qu'ils dépendent beaucoup du pétrole iranien. On voit non seulement ce que vous dites, mais qu'en plus, ils ont exporté du pétrole vers l'Australie.
Absolument.
Ils viennent nourrir en pétrole l'Australie, les Chinois.
Tout à fait. C'est pas un hasard si, entre janvier et fin février, le prix du pétrole est monté de 50 à 62 dollars. Vous regardez les importations chinoises en particulier sur cette période-là, elles ont plutôt augmenté, ils ont stocké. Les Chinois ont une vraie stratégie.
Oui,
c'est une réflexion stratégique. Ça marche pas, on ne sait pas, hein, mais ils ont une vraie réflexion stratégique.
C'est pas parce que vous ne les voyez pas venir qu'ils ne viennent pas. Il y a un livre passionnant qui a été publié récemment qui s'appelle L'ennemi qui nous désigne, du Grand Continent, une revue passionnante également. Et dans ce livre, ils expliquent justement, il y a tout un chapitre sur la Chine qui est en train de devenir ou qui va devenir première puissance économique mondiale. Et la question de l'auteur est la suivante. La Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, elle va le devenir. Et pourtant, seriez-vous capable de citer les noms de trois Chinois vivants?
Tellement j'ai vu ça. Oui.
Régis,
non, je
Laurent,
sais pas,
pourriez-vous?
j'ai déjà vu la question, j'aurais pu m'enseigner avant de venir.
Trois Chinois vivants. Et vous qui nous suivez, vous en connaissez trois Chinois vivants?
Xi Jinping, encore pour longtemps.
Oui. Xi Jinping, Jack Ma.
Ça, c'est un seul. Il y a deux mots, mais c'est un seul.
Jack Ma. Mais oui, non, effectivement.
Il manque le troisième.
Wen Jiabao.
Il est vivant encore?
Oui, c'est un ancien Premier ministre.
Oui. Ouais. On est sûr qu'il est vivant.
Absolument.
Oui. Bon, voilà.
Mais bon, oui. Régis. Mais sur les vainqueurs de l'IA, en fait, je suis pas sûr que de pouvoir définir ce qu'est un vainqueur de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil qui est nouveau. C'est encore une fois, ça se compare à l'avènement d'Internet, même si c'est probablement un événement plus majeur encore que l'Internet. Mais aujourd'hui, voilà, je sais pas ce que c'est être un vainqueur de l'Internet. Oui, il y a eu des nouveaux business models qui se sont créés. Il y a eu, effectivement, les sites magnifiques qui ont bénéficié. Mais je veux dire, c'est un outil. Et finalement, cet outil, c'est LLM. Effectivement, ils ont besoin de semi-conducteurs. Il y a pas de doute là-dessus. Et un petit peu d'électricité, de refroidissement et de data center, etc. Mais ils ont surtout besoin de data. Et en fait, le cœur du débat et du sujet dans l'avenir, c'est la data. Ce ne sont pas les LLM en tant que tels. C'est qui va détenir la data, qui va la distribuer, ouais. qui va l'utiliser au mieux. Oui. Ça va être ça le sujet.
On poursuit nos échanges. Il y a un autre Chinois vivant là dont on peut citer le nom. Lang Lang, le pianiste.
Ah oui, Lang Lang, bien sûr.
Ouais, le pianiste.
J'aurais dû.
Ouais. Ah oui, en plus vous chantez, hein, on rappelle.
Je chante, je joue.
Wen Jiabao est toujours vivant.
Hein, voilà, on est fort. On a quatre noms de Chinois vivants. C'est pas évident, hein, alors que les Américains, première puissance, alors depuis plus longtemps, mais le soft power, il est beaucoup plus ancré chez nous, évidemment.
Bien sûr.
Bon, passionnant. Je disais, Régis chante, oui, il est chanteur savoyard, c'est ça.
Chanteur.
C'est vrai. Hein. Vous trouvez des vidéos, vous avez Régis Bégué, et qu'est-ce qu'on tape en plus pour vous retrouver, Régis?
Bah rien, mon nom.
Juste sur YouTube.
On trouve plein de choses.
Oui, dans un instant, dans 11 minutes, ce sera la clôture. On va la vivre ensemble, bien sûr. Le CAC gagne dans cette dernière ligne droite où on accélère. Il gagne 0,8%. Les valeurs, les logiciels, on le disait, rebondissent, alors que les semi-conducteurs, au contraire, marquent une pause dans le sillage de Broadcom. Le titre Broadcom perd 14% à Wall Street, malgré une super publication. Mais bon, il en faut toujours plus. Et du côté des logiciels, au contraire, c'est la hausse. Dassault Systèmes gagne 6% quasiment aujourd'hui. Capgemini plus 6. SAP sur le marché allemand gagne 5,6%. Les valeurs souveraineté technologique aussi progressent. Vous savez que Bruxelles a annoncé hier des mesures pour encourager une montée en autonomie européenne sur les questions technologiques, pour moins dépendre de Google, par exemple, et des serveurs proprement américains. Essayer de faire monter les acteurs européens en la matière. Eh bien, OVH, aujourd'hui, OVH Group gagne 2% supplémentaire. À la baisse, on a Danone, Orange, des valeurs défensives, Veolia aussi, qui perdent 1 à 1,5%. On en parle avec Laurent Martin, Antoine, bien sûr, et Régis Béguet. Laurent, dans une semaine, nous saurons si dans le contexte qu'on est en train de décrire, avec une croissance qui flagelle un peu ici en Europe, du fait de la guerre en Iran, nous saurons si la BCE va nous faire du bien et relever nous faire du mal et relever ses taux. Est-ce qu'elle relèvera ses taux dans une semaine?
Elle relèvera ses taux, 0,25, on en avait parlé.
On a déjà eu ce débat avec Laurent. Ouais.
Le coup près n'est toujours pas tombé.
C'est done deal. Done deal. Elle relèvera ses taux et ça nous fera pas de mal.
Et ça nous fera pas de mal?
Non.
Attendez, on a une croissance flagelle. Quand je dis croissance, attendez, le PIB français au premier trimestre a reculé de 0,1%. Elle va relever ses taux et vous pensez que ça nous fera pas de mal?
Non, le taux 10 ans français est passé de 3 à 3,70 déjà. Donc le fait que la BCE remonte son taux directeur de 2 à 2,25 est, alors c'est pas anecdotique, mais de sur la macroéconomie, ça a très peu d'intérêt. Ça, j'aurais un autre discours si la BCE, en plus de relever de 0,25, commence à s'embarquer dans un cycle de hausse des taux tel qu'on a eu en 2022-2023 de 100, 150, 200 points de base. Mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, le débat dans le marché, c'est plutôt 2 hausses ou 3 hausses de taux. Je suis plutôt dans le camp de 2 hausses depuis un petit moment, d'ailleurs. Et ça s'explique.
Il va falloir bien l'expliquer. Parce qu'on
Il va falloir bien l'expliquer.
Les intervenants de marché qui viennent ici, ils ont du mal à le comprendre, là, que la BCE relève ses taux.
Mais ça se comprend très bien parce que c'est son mandat.
Son mandat, c'est de faire baisser les cours du pétrole.
Non, son mandat, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser l'inflation. Donc le pire que la BCE puisse faire, de son point de vue, c'est de ne pas bouger, que la crise dans le Golfe continue, que l'inflation commence à augmenter et qu'on ait un peu une spirale, pas comme on a eu en 2022-2023, parce que les choses sont un petit peu différentes,
il y avait la boucle
qu'elles doivent plus tard les relever encore plus. Ça qu'elle veut pas. Elle veut pas ça. Donc je pense oui.
Je comprends la peur et la crainte, mais on n'en est pas là. On n'est pas au bord d'une boucle prix-salaire parce que le pétrole monte, en l'occurrence. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle relèverait.
Attention. Il y a une chose. Je crois que on oublie un petit peu en Europe. Alors je sais pas comment ça se passe exactement dans les autres pays européens, mais en France, on ne parle pas que de boucle prix-salaire. On parle de boucle prix-revenu. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez on a 16 millions, 17 millions de retraités. C'est à peu près un tiers des revenus des ménages, par exemple. Et ces revenus-là sont indexés automatiquement. Vous avez X% de SMICAR, oui. Eh bien 2,4% au 1er juin. Donc, effectivement, sans avoir des hausses généralisées de salaire, vous avez quand même, de façon automatique, des revenus qui augmentent. Et je pense que dans les autres pays européens, c'est peu ou prou la même chose.
En masse, mais c'est, alors les retraités, vous pouvez pas les détruire, mais les emplois au SMIC, vous pouvez les détruire, par contre. Donc,
oui.
En masse, vous pouvez avoir une masse de salaires qui n'augmente pas.
Oui, mais regardez 2023, il n'y a pas eu de destruction d'emplois. Le SMIC a été relevé comme l'inflation, les retraites ont été relevées comme l'inflation, il n'y a pas eu de destruction d'emplois.
Alors, je comprends, et donc que la BCE respecte la lettre de son mandat, je comprends, il y a des prix qui augmentent, elle va relever les taux, après, à la limite, pourquoi pas, même si les prix, la hausse des prix ne généralise pas complètement, mais pourquoi pas. Mais quels seraient les bienfaits d'une hausse de taux ou deux ou trois pour les économies européennes?
Ah, c'est pour les marchés, c'est pas pour les économies. c'est pour empêcher, je crois, qu'à un moment donné, les marchés se disent « Ok, la BCE abandonne son mandat et que les taux longs montent, tout simplement. »
Question de crédibilité.
Question de crédibilité. Et une hausse des taux, imaginez une hausse des taux longs en France, parce qu'on commence à craindre que la BCE va laisser filer l'inflation. Une hausse des taux, on est à 3,70 aujourd'hui, 3,70, qu'on monte à 4,50 avec notre déficit public, avec nos finances publiques. Là, c'est dramatique. Et là, ça aurait un vrai impact sur la croissance, sur la confiance et sur les marchés, et probablement sur les marchés, pour le coup. Après, la communication va être très importante. J'aimerais entendre Madame Lagarde dire nous avons remonté les taux. C'est un peu une assurance contre justement un éventuel emballement de l'inflation, et que si à la fin de l'année les choses se normalisent, on sera tout à fait capable de les rebaisser aussi vite.
Oui. D'accord.
C'est un peu ça que j'attends.
Qu'elle n'emmène pas le marché sur l'idée qu'on est sur un cycle de hausse de taux.
Absolument.
Surtout pas.
Absolument. Ouais. Mais le 0,25, non.
Ça... Bah, vous m'avez plutôt convaincu, là, pour le coup. Alors, je suis un esprit faible, hein, mais vous êtes un esprit fort, Régis. Est-ce qu'il vous a convaincu autant que moi ou...
Pas vraiment. Parce que. Encore une fois, je comprends la logique, mais le but d'une hausse des taux. Pour casser l'inflation, c'est de casser la croissance économique. Quand on a voulu casser l'inflation dans les années 80, on a monté les taux à 18%, d'accord, pas de 0,25. Donc si le but c'est de casser l'inflation, faut briser l'économie. Et l'économie est déjà quand même en souffrance, elle n'est pas morte, mais elle est en souffrance du fait de la guerre en Iran et de la hausse des coûts des matières énergétiques, même si effectivement, parallèlement, les cours de bourse sont assez hauts, il y a quand même un petit effet richesse, etc. Enfin bon, qui joue quand même beaucoup moins en Europe. Donc moi j'ai quand même du mal à penser que ce qui restera comme ancré comme l'erreur historique des banques centrales, qui est la hausse des taux de juillet 2008 par la BCE, qui est quand même ce qui s'apprend dans toutes les écoles comme étant l'erreur majeure, eh bien on s'apprête à la refaire plus ou moins dans les mêmes circonstances. C'est quand même quelque chose que je n'arrive pas à me mettre dans le crâne, mais manifestement, j'ai tort, donc je rends les armes. Non, mais si ça va se faire, ça va se faire.
Dans une semaine, on saura. Un peu de patience, messieurs, dans une semaine. Et on sera en spécial, bien sûr, sur BFM Business tout au long de l'après-midi. Vous pourrez suivre cette décision de politique monétaire. Aude Kersulek sera avec nous, puis Francfort, justement, sera notre petite souris BFM Business au cœur de cette conférence de presse de Christine Lagarde, où elle essaiera de poser ses questions aussi de notre part, de la part de BFM Business. À la présidente de la BCE, Laurent, allez-y.
Me permettre, au-delà de la conférence de presse, il faudra bien écouter, après la conférence de presse, les sources BCE.
Oui.
Vous savez, les fameuses sources BCE qui s'expriment en disant on aurait plutôt voulu que, et le prochain meeting, on va plutôt faire ça. Et les sources BCE, alors c'est les Allemands, les machins, enfin c'est les Nordiques, s'expriment d'autant mieux quand ils veulent monter les taux.
D'accord. Ah oui, d'accord. Vous avez vos radars ouverts. Il faudra que vous veniez un jour de BCE, du coup. On essaiera de caler ça, en l'occurrence. Juste en 30 secondes, Régis, c'est une séance et une journée importante pour Bayer.
Absolument.
Il faut en dire un mot.
Bayer, qui est l'autre grande erreur historique qui s'apprendra dans les écoles de commerce et de finance pendant de longues
décennies.
Et on
reste en Allemagne.
L'acquisition de Monsanto en 2015, qui a coûté 60 milliards d'euros de capitalisation à Bayer, c'est-à-dire plus de 60% de sa capitalisation de 2015. En plus de 10 ans, donc on a perdu 60% de capitalisation à cause des procès liés au Roundup et au glyphosate aux États-Unis, dont une grande partie ont déjà été réglées, mais Bayer a proposé une class action, donc un règlement général sur l'ensemble des plaintes. Il en reste entre 60 et 70 000 aujourd'hui qui fermeraient ce dossier. Ce serait donc une étape majeure pour Bayer. Elle sera éventuellement validée par le juge de la Cour suprême en début juillet, mais aujourd'hui, on saura le taux de plaignants qui va accepter de rentrer dans le deal, et c'est très important, ce taux doit être proche de 100% pour que le deal se passe.
À suivre aussi, on entre avant la clôture dans un instant dans la data room. Les data valent de l'or, les marchés ouvrent ici leur plus grande boîte à bijoux, leur boîte à data. Laurent et Régis, êtes-vous prêts à nous livrer de belles data?
Absolument.
Vous avez chacun une minute. Laurent, on démarre avec vous. Votre chiffre ce soir, 98.
98. Depuis 25 ans, donc 25 dernières années, 300 mois, Si vous regardez le taux d'inflation annuel chaque mois qui a été publié par la BCE, eh bien, il n'y a eu que 98 fois sur 300 où le taux d'inflation annuel était entre 1,7 et 2,3.
Donc dans l'objectif.
Non, justement, 98%, seulement 98%.
Oui,
oui, pardon, parce que 98% de l'objectif. Donc, ouais. 98 sur 300. Donc, les deux tiers du temps en dehors de l'objectif. Et pour autant, sur 25 ans, l'inflation moyenne annuelle a été de 2,1%. La BCE a réalisé son mandat. Et donc, et ce que je tire aussi de ce chiffre, c'est 30% de chiffre mensuel dans l'objectif, c'est que la BCE est probablement plus pragmatique, malgré toutes les critiques, que ce qu'on veut bien dire et ce qu'on veut bien voir.
Ah, c'est intéressant, tiens. Ouais. On le rate souvent, l'objectif. Ouais.
Elle rate souvent l'objectif.
Ah, cette data. Laurent, vous êtes livré pour nous. À vous, Régis, de faire aussi bien. Votre chiffre, 60%.
Mon chiffre 60%, on va rester dans l'optimisme et on va aller dans le sens de Laurent pour dire que le pire de l'économie n'est jamais sûr et que peut-être on s'en sortira même avec une hausse de taux. 60%, c'est le nombre de jobs n'existaient pas en 1940 aux États-Unis et qui occupent aujourd'hui l'emploi américain. Et c'est un chiffre qui est encourageant dans le cadre des débats que nous avons autour de l'intelligence artificielle et de la destruction massive de jobs que ça pourrait engendrer, et notamment chez les éditeurs de logiciels. Voilà, mais ça va créer aussi d'autres jobs nouveaux, commencer par data scientist. Data scientist, c'est un job qui n'existait pas avant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, s'il existe, je pense à celui-là en particulier, mais il y en a d'innombrables nouveaux, oui, qui peuvent se substituer ou se transformer. Typiquement, le job de radiologue va être modifié par l'intelligence artificielle. Est-ce à dire que nous n'aurons plus du tout de radiologue parce que l'intelligence artificielle est capable de lire une radio? Je ne le crois pas.
Et votre chiffre le démontre, 60% des jobs aujourd'hui qui existent aujourd'hui aux États-Unis n'existaient pas
en 1940.
Incroyable, ouais. Et ça va sans doute continuer dans ce sens. De toute façon, ça s'appelle le sens de l'histoire. Donc c'est, voilà, le temps qui fait son œuvre, là, pour le coup, et en plus avec des accélérations technologiques. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Régis Béguet pour Zadig AM. Merci de nous avoir accompagnés. Chanteur aussi et écrivain, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs. Ça fait quelques années que le dernier livre. Ça fait
plusieurs années. Ouais, 2022, le dernier qui est sorti.
Oui, mais je sens que ça cogite. Laurent, un prochain livre ou un premier livre à venir, peut-être. Ou...
Pas en projet non, pour l'instant, bon, mais pourquoi pas.
En rêve alors. Laurent Martin, CIBTP France. Merci beaucoup. Laurent, également, c'est votre première sur ce plateau et on sera ravis de vous retrouver à nouveau. Le CAC, dans un instant, avec les marchés européens, va clôturer. On va vivre ça avec Antoine. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Comment termine-t-on ce soir ?
On termine bien. On termine avec un brusque influx haussier, là, pile au moment du fixing, plus 1,15% en clôture à 8244 points. En plus, les volumes d'échange sont bien consistants, à 3,8 milliards. Surperformance des indices généraux par rapport à la tech aujourd'hui. Un petit peu moins de chance pour l'Euronext Tech Leaders, quand même plus 0,97%. Et Paris qui s'empare de la tête des progressions des indices boursiers européens. Vous voyez, un plus 0,6% pour l'Eurostock 50, plus 0,4% pour le DAX à Francfort. Le FTSE plus 0,14%, plus 0,12% à Milan et plus 0,39% à Madrid. Qu'est-ce qui a fait notre force aujourd'hui ? Ce qui faisait notre faiblesse avant-hier, secteur des logiciels. Capgemini plus 6,61€, 104,20€. Dassault Systèmes plus 5,9% à 20,16€. Qu'est-ce qui a fait notre force et qu'est-ce qui fait notre force depuis plusieurs années ?
Oui.
Le luxe. Eh oui, LVMH gagne quasiment 3%, 474,10€. Donc, au vu de la pondération, c'est un des artisans de la hausse du jour. Parallèlement à cette hausse des logiciels, on a une forte baisse de l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Alors, des prises de profit, puis aussi de la déception, entre guillemets, concernant les performances de Broadcom aux États-Unis. Mais enfin, pour un titre qui est valorisé à 80 les bénéfices, bon. Moins 2,5% pour ST Microelectronics. Et puis, on a également Soitec qui a reculé de 5,5% à 156,50€. Quelques petites prises de bénéfices autour de Valeo aussi, après la poussée spéculative, oui, hier autour de l'IA. On n'a pas bien compris, mais bon, moins 6,5% à 15,56.
Romain est avec nous, Romain Dobry pour Bourse Direct. Rebonsoir Romain. Donc, belle séance, belle clôture, plus 1,1%, 8244. On a profité en fin de séance d'un retournement à la hausse de Wall Street.
Oui, effectivement, du mieux en Europe, c'est un peu topiche peut-être à Wall Street, hein. On reste quand même résilient sur les indices américains malgré le plongeon de Broadcom, de CrowdStrike, la baisse de Micron, et pourtant on repasse dans le vert. À Paris, on accumule sous un niveau important, c'est 8259 points. On est repassé sur l'Eurostox au-delà des 6073. Donc c'est peut-être du mieux une accumulation qui se fait en partie haute. Il va falloir confirmer puisque tout ça se fait encore avec très peu de momentum, peu d'intérêt sur les contrats à terme, sur les futurs, même si on voit des dossiers qui bougent un peu. Juste une data qui est intéressante. Attention quand même, les ratios put-call donc sur les actions américaines sont à des plus bas de mars 2022. On est quand même hyper, hyper optimiste à Wall Street. Un retracement de 5-6% pourrait être un peu légitime.
Merci Romain Daubry pour Bourse Direct. Tout de suite, on va refaire la séance, vous apporter un maximum de pistes aussi pour la suite.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec qui viennent de nous rejoindre, Edwin Ford, directeur de la gestion de Philippe Autingre Gestion. Bonsoir Edwin.
Bonsoir.
Gwenaël Lessard avec nous, Swiss Life Gestion Privée. Bonsoir Gwenaël.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, ravi de vous retrouver. Une valeur aujourd'hui est au plus haut du jamais vu en Europe. Jamais un groupe n'avait autant capitalisé qu'ASML ce soir. Avec sa nouvelle hausse, on est sur un nouveau top de capitalisation pour une valeur européenne. Devant le record de Novolandis qu'en 2024, ASML est plus haut que n'importe qui dans l'histoire des marchés européens. Voilà, fallait bien que ça arrive un jour, c'est aujourd'hui.
C'est normal.
Et c'est mérité et ça va continuer. C'est la question à combien ? 600 et quelques milliards d'euros, c'est la capitalisation d'ASML.
Moi, je pense que ça peut continuer.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont sans doute revoir encore à la hausse leur objectif de chiffre d'affaires sur 2026 et peut-être aussi sur la période 2026-2030. On parle peut-être plutôt là de 36 à 40 milliards de chiffre d'affaires en 2026, alors qu'on était avant en 34-39. Et sur 2030, on est à 44-60. Donc, je pense qu'on va au moins aller vers les beaucoup plus que les 50-52. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est un des grands bénéficiaires de l'IA. Et je pense que les investissements dans l'IA, c'est pas pour les 6 mois, on est parti sur plusieurs années. Donc c'est un élément important. Ils ont une avance technologique par rapport aux autres. Il y a une demande très très forte de puces par rapport à la production. Et je pense même qu'ils produisent un petit peu leurs machines, un petit peu moins pour aussi faire monter un petit peu les prix. Voilà. Donc je pense qu'aller vers, on est à 1400, on peut très bien aller voir les 1600, 1650 sur ASML.
Oui, qui cote ce soir en hausse de 1% de hausse, mais il était en baisse ce titre hein, tout au long de la séance et il termine en hausse à ASML à 1498 euros. Vous le voyez grimper jusqu'où, disiez-vous ?
1600, 1650.
Ouais, d'accord. La capitalisation ce soir, donc, c'est du jamais vu pour une valeur européenne, 670 milliards d'euros. On n'est pas à 1000 encore, mais 670. Vous pensez aussi que ça va continuer fortement, Edwin ?
Ouais, c'est bien parti. Bon, déjà, il y a beaucoup de visibilité. On a un carnet de commandes pour les prochaines années. On a vu que TSMC, un de leurs principaux clients, a décidé d'augmenter ses investissements en 2026. Et là, il y a la montée en puissance des nouvelles machines. Une machine de ASML, c'est environ 200 millions d'euros. C'est énorme pour les nouvelles puces que Nvidia produit. Donc, cette technologie EUV, où ils sont en monopole, c'est un peu le seul acteur européen qui est en position monopolistique et qui va bénéficier des tendances de l'IA, mais pas que. Et aussi, c'est du hardware. Il ne faut pas oublier que sur le début de l'année, il y a des incertitudes sur tout ce qui est software, tout ce qui est entreprise de conseil technologique. Il y a un retour important sur tout ce qui est production physique, hardware, qui a le vent en poupre depuis le début de l'année. Et c'est ça aussi un des drivers du titre, même si aujourd'hui il peut se payer un peu cher, les perspectives sont bonnes. Attention s'il y a un ralentissement sur l'IA, sinon on est plutôt confiant sur le potentiel de la valeur.
Romain, graphiquement, vous le sentez comment à ASML, au plus haut donc pour une valeur européenne, en tout cas en capitalisation, on n'avait jamais vu un titre valoir autant.
Bien, c'est plutôt un bon message. On avait indiqué une cible graphique à 1490. Elle termine d'un cheveu au-dessus ce soir. Donc, c'est une poursuite haussière possible avec en mire effectivement 1566. Et puis, pourquoi pas 1676 en extension. Les niveaux d'alerte et de retournement, ils sont lointains. C'est 1373. Donc, ça reste haussier, même si effectivement, on a été finalement dans le vert qu'à la clôture.
Alors, une pépite, parce que là, on est à nouveau pris dans les filets de l'intelligence artificielle. Mais il faut aussi savoir s'en libérer. On reparlera d'intelligence artificielle dans un instant, mais sachons nous en libérer aussi. Une pépite comme ça, pas forcément liée à l'IA. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit, Edwin ?
Oui, nous, on est très confiants sur une entreprise italienne qui s'appelle ICOP. C'est un leader de tout ce qui est infrastructure complexe, donc tout ce qui va être micro-tunneling pour faire les métros, les trains, mais c'est aussi les fondations marins, donc tout ce qui est dans, vous retrouvez dans les ports à travers le monde. Ils sont présents en Europe et ils vont bénéficier aussi de deux tendances très fortes géographiques. Les États-Unis, où la technologie micro-tunneling n'existe pas encore ou est très peu implémentée. Le plan allemand, les 1000 milliards qui vont être investis, ça va aider beaucoup les infrastructures. Mmh. Et en Italie aussi, qui est leur principal pays aujourd'hui, où depuis l'effondrement du pont de Gênes, les Italiens ont décidé de réinvestir massivement sur les 10-20 prochaines années dans leur infrastructure. Donc vous avez un bon momentum sur des structures de qualité. C'est pour ça que l'entreprise a des marges élevées, parce que c'est que des fondations techniques. Mmh. Elles se payent pas encore trop cher pour une entreprise de cette taille-là. Donc, on est assez confiant. Et bien sûr, c'est une entreprise familiale. Les dirigeants sont les principaux actionnaires.
Ça, vous aimez bien. Qu'on rappelle le nom de ce titre ?
ICOP.
ICOP.
Exact.
Ça s'écrit comme ça, voilà. Comme ça se prononce. C'est l'avantage de l'italien. Le français est plus compliqué là-dessus. Oui, on nous le reproche beaucoup à l'étranger. Mais quand même, vous écrivez comme vous ne prononcez pas, ou vous prononcez comme vous n'écrivez pas. En italien et en espagnol, c'est un peu plus simple. Gwenaël, une valeur, une pépite comme ça pour la suite, hors IA, parce que l'IA, c'est pas qu'on va pas en parler dans un instant, bien sûr qu'on va le faire, mais ça fait du bien aussi de parfois sortir des mailles du filet.
Bah, vous avez raison. Il y aura beaucoup, beaucoup d'investissements en dehors de l'IA dans tout ce qui est l'énergie. On parle de 800 milliards d'investissements dans les réseaux, dans tout ce qui est production d'énergie pour l'Europe jusqu'en 2030, et 2 trillions au niveau mondial. Et je pense, pour plusieurs raisons, déjà pour être un peu moins dépendant de toute la production pétrolière, et aussi pour pouvoir apporter l'électricité à tous les data centers qu'on va avoir en Europe et dans le monde. Donc nous, on a choisi Technip, qui est vraiment un des leaders dans l'ingénierie, un des leaders aussi dans le GNL. Ils ont souffert un petit peu au T1 parce que le Qatar est un de leurs gros clients. Ils sont 50% au Moyen-Orient, donc c'est important. Donc, à cause de la guerre, le Qatar a reporté certains investissements, mais c'est juste reporté. Ils avaient 16 milliards de chiffre d'affaires en backlog en fin 2025. Ils sont à 20 milliards fin du T1 et 24 milliards fin du semestre. Donc, il y a une visibilité très forte. Ils sont numéro 1 sur le LNG, où on va continuer à augmenter les dépenses très fortes dans le LNG, que ce soit au Canada, au Qatar, aux États-Unis. Ils font très attention sur les nouveaux contrats qu'ils vont faire pour pas avoir de problème dans l'ingénierie. Il faut faire attention. Et ça se paye pas très cher. Ça se paye à peu près 14 fois 2026, 11 fois 2027. Donc nous, on trouve que c'est quelque chose. Il n'y a pas que les investissements dans l'IA, l'investissement aussi dans l'énergie. Et Technip nous paraît très importante pour profiter de ce secteur.
Romain, là, il y a deux propositions de nos experts qui n'ont rien à voir. Une valeur française, une valeur italienne, dans des domaines complètement différents. Techniquement, graphiquement, lequel gagne, la Gwenaël avec Technip, ou plutôt, en l'occurrence, Edwin avec sa valeur italienne ICOP?
ICOP, c'est haussier, il n'y a pas d'invalidation, mais on a peut-être atteint une cible graphique de court terme en tout cas, donc pas de signe de retournement, mais le potentiel de rebond vient peut-être plus pour Technip, qui, il faut le dire, avait bien réagi sur son support majeur à 30-60 au mois de mars, est allé buter contre une résistance à 40-18 et depuis dans une structure de pause dans la tendance haussière qui s'appelle un biseau. Et donc, c'est pour l'instant un repli de 15% depuis les sommets, mais une réactivation haussière possible, donc un potentiel haussier qui est peut-être plus important à court terme, en tout cas pour Technip, qui pourrait retourner chercher une zone située entre 40 et 41 au moins.
Preuve qu'on peut faire de la perf et satisfaire le marché sans parler d'IA aussi, il y a Rémy Cointreau qui a annoncé ses prévisions. Ce titre, Rémy Cointreau, gagne plus de 10% ce soir. Comment ose-t-il gagner 10% alors qu'il ne parle pas d'IA? C'est fou ça quand même. Quelle prétention de la part de Rémy Cointreau. Non, mais je plaisante, mais c'est rare de voir des boîtes gagner autant hors tech actuellement et hors IA. Ben là, c'est le cas avec Rémy Cointreau. Est-ce que vous êtes aussi convaincu que le marché par ce qu'ils ont annoncé, Edwin?
C'est pas mal. Bon, après, ils ont perdu 70% de leur valeur en 4 ans. Donc, il faut mettre un peu l'église au milieu du village. La publication est rassurante parce que c'est vrai que c'est un titre qui a beaucoup souffert depuis 2021 du surstockage de la consommation de cognac aux États-Unis post-Covid, du ralentissement de la consommation en Chine, d'une consommation des jeunes dans l'alcool qui a baissé, d'alternatives comme le whisky qui devient un peu plus populaire. Donc l'environnement est assez morose depuis quelques années pour Rémy Cointreau et qui explique la baisse. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un effet déstockage américain qui est derrière nous, donc on va repartir avec un peu de croissance. Le groupe a décidé d'avoir une stratégie plus large, de changer son offre, des offres plus low cost, des nouveaux formats, de la distribution à travers le travel retail. Donc on commence à avoir un profil plus diversifié et pas monocentré sur le cognac. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est un projet d'amélioration des marges. Donc on va devoir améliorer les marges, une augmentation de plus de 60% des marges opérationnelles dans les trois prochaines années à venir. Donc c'est un nouveau Rémy Cointreau. Avant, c'était premiumisation et de la croissance. Maintenant, c'est une nouvelle histoire.
Oui. Qui vous convainc complètement ou pas?
On préférait la première, l'ancienne période. Donc, c'est sûr que c'est, nous, on trouve ça moins bien. Mais on pense que la société est obligée de passer par là. Et on a touché peut-être un point bas au niveau des valorisations et des marges.
Rémy Cointreau gagne 10% ce soir. Alors, parmi ses concurrents dans les boissons, il y a LVMH, parmi ses nombreux concurrents. Hein, voilà. LVMH qui a fêté hier ses 39 ans, mine de rien. Ils sont nés le 3 juin 1987. Louis Vuitton et Moët&Cy se sont rapprochés le 3 juin 1987. Donc, 39 ans LVMH. Un auditeur nous demande si à 39 ans, on est un jeune qui avance, mais un jeune, ou au contraire, si à 39 ans, on peut entrer dans la catégorie des gens qui vieillissent. C'est une question qu'on peut poser sur LVMH. C'est un groupe vieillissant ou c'est encore un groupe relativement jeune, même s'il a de la maturité? Gwenaël.
39 ans, c'est quand même dans la force de l'âge, donc il n'y a pas de problème. Non, non. C'est un groupe qui doit se restructurer malgré tout. Il y a sans doute trop de marques, donc ils vont peut-être en vendre certaines pour se reconcentrer. Mais moi, je pense que c'est plus le secteur du luxe qu'il faut regarder qu'LVMH. Souvenez-vous, avant le Covid, on était à 8-9% de croissance sur le secteur. Après la sortie du Covid, explosion à 13%. Depuis deux ans, on est à zéro. Donc la question sur LVMH et sur le secteur, c'est si on revient à 5-6% sur les prochaines années, bah LVMH, ça vaut 600-650. Si on reste autour de zéro, bah on reste autour de 475-500 €.
Bon, ben voilà. LVMH, donc, on aura de dresser le portrait ce soir d'un mot d'un seul. Vous investirez dans SpaceX ou pas la semaine prochaine? L'introduction en bourse? Non. Edwin?
Bah non. Bon. Déjà, voilà. L'entreprise perd de l'argent, il y a des capex importants, il n'y a pas beaucoup de visibilité, ça se paye entre 80 et 100 fois le chiffre d'affaires. C'est très, 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 très risqué. C'est pas notre philosophie d'investissement, donc on n'investira pas dedans.
C'est dit. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Je ne vous demande même pas, Gwenaël, parce que je sais que c'est. Non. Voilà. Merci de nous avoir accompagnés. Ce soir, le CAC 40 gagne 1,1%. Gwenaël Lessard, Swiss Life Gestion Privée, Edwin Faure, Philippe Autin, Gestion étaient nos experts. Dans un instant, le 18-19, Edwige Chevrillon aux commandes avec Antoine pour débriefer la séance. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.